Bonjour à vous. Donc, je me présente, Vanessa Devache-Vasselin. Alors, moi, pour ma part, fraîchement docteur en sciences de l'éducation, rattachée aussi au laboratoire du CIRNEF et très intéressée par les questions de jeu. J'ai le plaisir donc d'animer la conférence qui va être présentée maintenant. Pour poursuivre notre journée d'études sur les conditions nécessaires à une continuité éducative réussie, nous allons nous interroger sur le rôle et la place d'un espace assez spécifique, la ludothèque, dans ce qu'il participerait à cette continuité éducative. La conférence de ce matin interrogeait les espaces de loisirs et la nécessaire rupture, discontinuité éducative dans le parcours de l'enfant. On peut donc peut-être être un peu surpris d'envisager une continuité éducative avec la ludothèque, cet espace de jeu frivole, incertain, libre et spontané. Pour réfléchir à cette question, nous allons donc accueillir Stéphanie Ruby, maîtresse de conférence HDR à l'Université Bordeaux-Montaigne et à l'UT Carrière Sociale et membre du laboratoire Culture, Éducation, Société. Donc, après un parcours interdisciplinaire mêlant psychologie, sciences de l'éducation et sociologie, vous ancrez votre travail de recherche en sociologie de l'éducation avec une affection particulière pour les démarches ethnographiques et l'investigation longue sur les terrains. Vous portez entre autres une attention particulière à quatre grands domaines. Tout d'abord, la déviance et la délinquance, les désordres scolaires et urbains, particulièrement sous l'angle des filles et des femmes. Vous vous intéressez aussi aux processus institutionnels et sociaux d'assignation qui font de simples inégalités des arguments et à des traitements inégalitaires et discriminatoires. Et en miroir, bien sûr, les résistances des sujets pour obtenir une certaine reconnaissance malgré des attributs identitaires auxquels d'autres les réduisent. Et enfin, Stéphanie Ruby, vous questionnez les sociabilités juveniles qui, en leur sein, embrassent les loisirs et pratiques culturelles des enfants et des adolescents, adolescenteux, au regard des propositions institutionnelles. Aujourd'hui, vous nous proposez donc de réfléchir les questions de continuité éducative en interrogeant le jeu et un espace qui lui est spécifique, la ludothèque, et leur rôle dans les relations au sein de la fratrie. Comme l'expliquait Nathalie Roucou en 2006 dans son article « Ludothèque, un territoire de l'enfance », les ludothèques sont des structures de loisirs où des professionnels mettent à disposition de plusieurs publics, enfants, familles, scolaires, handicapés, des jouets et des jeux pour un usage sur place, en libre jeu, pour du prêt, pour des animations ponctuelles. Et elle précisait ainsi que la ludothèque est un espace en libre accès qui n'a pas pour rôle de remplacer la famille, mais de permettre aux enfants de disposer d'un espace particulier dans lequel ils puissent élaborer et développer de façon autonome les activités ludiques de leur choix. Comment passe-t-on d'un espace de l'enfance, d'un territoire de loisirs libres, qu'on pourrait voir même comme un lieu de rupture éducative, à un espace investi d'intentions éducatives par les familles ? Et comment le professionnel du jeu s'inscrit dans cette évolution ? Comment dès lors va se construire une relation partenariale entre les ludothécaires, ces professionnels du jeu, et les parents ? Donc en observant les pratiques ludiques des fratries, Stéphanie Ruby, vous allez proposer d'identifier les attentes éducatives implicites des parents de cet espace et la diversité des expériences vécues. En lien avec le thème de cette journée, la présentation que vous allez nous faire interroge la continuité éducative souhaitée, implicite ou non, entre la famille et la ludothèque. Et elle vise à identifier en quoi il y a, dans les pratiques ludiques, des fratries mises en œuvre à la ludothèque, les conditions nécessaires à une continuité éducative réussie. S'appuyant sur les données de la recherche interdisciplinaire, ce que le jeu fait aux familles, en ludothèque, en famille, le jeu dans la relation père-enfant et dans la famille, fratrie, pardon, 2017-2019, qui était soutenue par le département sciences humaines et sociales de l'Université de Bordeaux, vous donnerez ainsi la parole aux enfants pour identifier dans leur pratique du jeu, à la ludothèque, les constructions et reconstructions des liens fraternels et familiaux.
Merci beaucoup, Vanessa. Bonjour à toutes et tous. Avant toute chose, merci. Merci de cet accueil, merci de cette sollicitation à venir discuter avec vous aujourd'hui des résultats de cette recherche qui est toujours en cours. Merci donc Julie, mais aussi merci Vanessa de ces interactions, de cette présentation, de nos échanges, et merci Jean-Pierre d'être venu à moi ce matin à la gare et pour cet accompagnement. Alors sans plus tarder, je vais vous proposer cette réflexion sur la question, comme vous l'avez évoqué, du partenariat, de la coéducation, de la continuité éducative en regardant cet équipement particulier qui est la ludothèque. Vous l'aurez compris, la recherche est en cours, donc je vais vous livrer une photo à un instant T, en sachant que la recherche a commencé en 2017, plus exactement vraiment en septembre 2017. Donc j'ai à vous proposer, on va dire, des modélisations, des idéotypes qui viennent regarder, on va dire, par trois angles, trois points de vue, que ce soit celui des équipements et des professionnels, alors des projets et des professionnels des équipements, celui des parents et enfin un petit peu celui des enfants. Peut-être que en préalable, le contexte de mon propos d'aujourd'hui, c'est de partir, vous le voyez, on va dire qu'il y a a priori trois champs qui sont sous-jacents à mes propos. Tout d'abord, un premier champ sur la société du temps libre ou société du temps libéré du fait des progrès techniques, du temps inoccupé, que ce soit par la montée du chômage ou par ce temps libéré du travail, et qui va correspondre aux soirées, aux week-ends, aux vacances ou au temps de la retraite, qui est loin d'être inoccupé. Nous avons plusieurs exemples ici dans la salle. Ainsi, ce temps de loisir consacré, qui devient temps pivot pour Gilles Pronovo, change le rapport au temps de travail, aux autres temps de la vie, au bénéfice de ces derniers. Et donc, ce temps de loisir va être investi par les personnes potentiellement pour cette réalisation de soi, potentiellement aussi pour consacrer du temps au projet parental, au projet familial. Par ailleurs, on a un deuxième contexte qui est plutôt cette évolution du temps de l'enfance, décrit par Philippe Ariès, à ce que Laurence Gavarini a pu appeler la passion de l'enfance, comment l'enfant progressivement a été mis au centre pas seulement de l'école, mais au centre aussi de la famille, et est devenu un sujet porteur d'idéaux, porteur de projets pour lui et pour lequel les parents, la famille vont construire des envies, des volontés, des objectifs. Ce projet parental-là, il va rencontrer des territoires de l'enfance, dont les ludothèques, ludothèques comme construction sociale des espaces de l'enfance, des espaces qui vont accueillir ces enfants et ces projets de leurs parents ou des familles par rapport à ce nouvel accompagnement, à cette nouvelle forme peut-être de parentalité. C'est là la quatrième dimension, comment la parentalité avec le P minuscule est devenue parentalité avec un P majuscule, comment les politiques publiques se sont emparées de cette notion-là, comment l'action publique est venue investir cette dimension de la parentalité, et ce, de manière simultanée, concomitante, à une institutionnalisation, à une structuration progressive, une professionnalisation du métier de ludothécaire. Alors, quelles sont les questions que je vais essayer de suivre cet après-midi et auxquelles de répondre? Comment, en tout cas vous donner des éléments, comment les ludothèques et leurs professionnels participent et réalisent ce projet de coéducation? Quelle est la place et la fonction que prennent ces équipements dans le projet parental? comment est-ce qu'ils sont mobilisés. Et enfin, comment les professionnels, les parents, les enfants s'emparent de ce diptyque-là, jeu et parentalité, plus spécifiquement en ludothèque. Il y a différents éléments de connaissance qui sont mobilisés, qui sont probablement là aussi sous-jacents à mon propos, en tout cas que l'on investit dans la recherche. Tout d'abord, c'est une revue de la littérature sur les questions du jeu et du développement de l'enfant. C'est plus particulièrement les collègues psychologues qui le prennent en charge, mais pas uniquement, et en tout cas, elles ne le cantonnent pas uniquement à la discipline psychologique. Ce sont des éléments sur le jeu dans la relation parent-enfant, avec une question de recherche qui vient spécifiquement interroger la relation père-enfant, qui a été moins investiguée que la relation mère-enfant. Une question de recherche qui vient regarder particulièrement le jeu dans les fratries, dans les relations frères-sœurs. Enfin, un axe aussi sur les socialisations sexuées et donc sur la part du genre dans ces équipements. Comment est-ce que le genre traverse ou non ces équipements culturels, socioculturels? Donc là, le genre plus en tant que matrice, en tant que processus de différenciation des sexes qui, par la même occasion, hiérarchise ces mêmes sexes et les rôles sociaux qui leur sont afférents. Un autre pan qui serait lié aux procédures, aux normes architecturales, des équipements socioculturels et à ce que ces normes génèrent comme flux, comme circulation, comme manière d'habiter, diraient les collègues géographes, ces équipements et ce que ça va avoir comme incidence sur les fonctions et les usages de l'équipement. J'aurais pu ajouter les usages. Et enfin, sixième point, sur les enjeux et les volontés de l'action publique par rapport aux jeux et aux familles en ludothèque. Comment des décisions publiques, l'action publique vient s'emparer de cet objet-là. Donc je vous l'ai dit, c'est lié aux travaux de recherche d'une recherche interdisciplinaire qui, effectivement, Vanessa le soulignait, a été soutenue par le département sciences humaines et sociales qui bénéficie donc de ce soutien-là pendant 3 années. Nous avons démarré en septembre 2017. Ce sont 5 laboratoires qui collaborent à cette recherche-là, 8 sections disciplinaires différentes, donc lesquelles je ne vous ai pas citées, sciences politiques, aménagement, géographie sociale, anthropologie et sociologie, et donc sciences de l'éducation, psychologie et urbanisme aussi en plus. Et puis, c'est un COPIL qui accompagne le projet de recherche, qui est constitué de partenaires professionnels, ludothécaires, ludologues, personnes spécialisées, S-jeux, d'enseignants-chercheurs dont deux sont ici et un futur docteur, presque bientôt, et puis des institutions qui sont intéressés, qui sont partenaires directs ou non, par exemple l'Association des ludothèques françaises, mais ça peut être aussi des laboratoires de recherche qui peuvent avoir envie de suivre ce type de recherche-là, comme par exemple l'Observatoire universitaire international éducation et prévention. Et donc, nous avons une réunion annuelle. Donc, Julie Delalande, Nathalie Roucou, Baptiste Bespatin sont inscrits dans ce COPIL qui a aussi pour fonction d'accompagner, de discuter, d'échanger, de préciser des fois, de prendre en compte certains éléments qu'on n'aurait pas vus ou nous faire préciser des choses. Bref, on travaille collectivement à cela. Cette recherche-là, vous le voyez, je l'ai dit précédemment, 2 clés de voûte, le père, figure parentale, encore trop souvent délaissée, secondarisée, dirait Gérard Nérand, et puis la fratrie. La fratrie, là aussi, qui commence à être une des variables de plus en plus sollicitées, notamment dans les recherches en sociologie de la culture, mais aussi en sociologie de l'éducation, par exemple sur les questions d'orientation et d'orientation sexuée différenciée, dont on sait que les germains peuvent avoir une incidence de prescripteur ou de prescriptrice sur les goûts et les pratiques culturelles ou sur les choix d'orientation. Trois tâches de recherche qui sont successives ou parfois combinées. Donc un premier pan autour du diptyque jouer-grandir. Qu'est-ce que jouer? Qu'est-ce que grandir? Qu'est-ce qui se passe pour les enfants, petits et plus grands, sur ces deux entrées-là, donc le grandir et le grandissement. Un deuxième élément sur une deuxième action sur la place et la fonction du jeu dans les relations intrafamiliales, que ce soit en ludothèque et en famille. Et donc, vous voyez que ça se décline avec quatre sous-parties, jeu et parentalité, relations père-enfant, socialisation sexuée et jeu, et fraternité et sororité au regard des jeux. Et enfin, une troisième action de recherche qui, là, regarde plus le jeu en tant que média polymorphe, c'est-à-dire en tant que média culturel, patrimonial, anthropologique et politique, et qui vient regarder le jeu et la démocratie, les politiques publiques et le jeu dans les équipements culturels, et enfin, les ludothèques, les ludothécaires et la démocratie culturelle. Comment est-ce qu'ils mettent ou non en place ces intentions démocratiques-là? Pour ce faire, trois terrains contrastés de la Gironde qui sont mobilisés. Un premier terrain qui est une ludothèque municipale. Alors là, on ne voit pas la totalité du bâtiment, évidemment. Ça, c'est le coin petite enfance. Mais j'ai essayé de vous présenter des photos qui viennent un petit peu caractériser aussi le fondement des projets. Donc cette ludothèque-là, elle a été créée en 2008 dans un nouveau bâtiment, donc avec toute une partie baie vitrée et puis un système d'ornement bois. Je n'ai pas réussi à bien trouver un terme pour décrire, mais on voit un peu là les lattes de bois derrière, derrière la fenêtre, derrière la piscine à balles. Et donc de l'extérieur, on a ces lames de bois là qui viennent en devanture. Sur l'équipement culturel. Et à l'entrée de l'équipement, on a et le centre socio-culturel, d'un côté, à gauche, et à droite, on a l'équipement ludothèque. Donc c'est une municipalité qui a été plutôt proactive sur cet équipement-là, qui d'ailleurs propose la gratuité de l'accès à l'équipement pour les habitants de la commune. Je le souligne parce que c'est suffisamment rare pour que ce soit souligné. Alors, quand on est extérieur à la commune, on a une somme à s'acquitter pour devenir adhérente de la ludothèque. Mais pour les, je vais finir par le dire, il faut que je fasse attention, pour les habitants de la commune, que je vais garder anonyme, il y a la gratuité de l'accès à la ludothèque, qui est située au milieu d'un quartier, quartier plutôt populaire, mais il y a une petite zone pavillonnaire non loin de là. Donc, on a une population qui ressemble au territoire et qui est assez mixte à l'intérieur de la ludothèque et avec, on va dire, des catégories socioprofessionnelles qui vont des personnels navigants, parce qu'on n'est pas très très loin de la commune où se situe l'aéroport, à des personnes qui peuvent être plus de catégories sociales beaucoup plus défavorisées. Donc une certaine mixité dans cet équipement-là. Et je vous l'ai dit, municipal, donc avec des agents municipaux. Deuxième équipement, une ludothèque historique. Historique parce que la première du département à avoir ouvert en zone rurale, et puis la personne qui a ouvert l'équipement était en poste à l'IUT Carrière Sociale. C'est elle qui a mis en place la formation des ludothécaires, dont j'ai la responsabilité pédagogique par ailleurs. Donc c'est elle qui a initié cette formation-là. Elle a écrit un ouvrage aussi, Les ludothèques, Annie Chiarotto, qui est un incontournable du domaine. Et donc, quand elle a ouvert cette ludothèque-là, dont on a fêté, vous voyez, les 40 ans en novembre 2017, la même année, la ludothèque passait d'un statut associatif à un statut d'intercommunalité. Donc, vous voyez, le contraste se fait aussi et sur la question des bâtis, des équipements, parce que là, on est dans une école typique construction traditionnelle des années 40-50, école communale. Et d'ailleurs, la ludothèque partage un espace extérieur, une cour avec l'école communale. Donc, on a des locaux qui ne sont pas vraiment adaptés, par exemple, en termes d'insonorisation, à des temps de jeu à l'intérieur. Bon, les ludothécaires en ont pris leur parti et ont réussi à aménager quand même des choses. Et on a, du coup, dans cet endroit-là, une population beaucoup plus favorisée, et j'ai mis autochtones, alors par référence aux travaux de Georges Fellouzi, Françoise Liot et Joël Perroton, qui en 2005, quand ils ont fait une enquête sur la dispersion très différenciée des populations étrangères scolaires dans certains établissements de l'Académie Aquitaine, ont utilisé cette différenciation-là, alloctones et autochtones, pour parler d'enfants dont on présuppose qu'ils n'ont pas eu de parcours migratoire, donc des enfants autochtones, par rapport à des enfants alloctones dont on présuppose, c'est-à-dire dans la lecture que l'on peut avoir dans les situations d'interaction d'un parcours migratoire supposé, que ces enfants-là, parce qu'ils ont une couleur de peau qui n'est pas blanche, doivent avoir une migration à un endroit ou à un autre. Donc il me semble que cette distinction-là que nos trois auteurs utilisent est assez intéressante dans ce qu'elle parle de la catégorisation intuitive, perceptible que l'on peut avoir et qui correspond au processus, par ailleurs, que l'on peut appeler des processus d'ethnicisation ou de racisation ou racialisation, mais je n'entre surtout pas dans ces digressions-là. En tout cas, là, on a une population beaucoup plus favorisée et dite autochtone, dont on peut présupposer qu'il n'y a pas eu de trajectoire migratoire. Troisième terrain. Alors, on l'appelle l'escargot, donc j'ai laissé l'escargot et je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je vous montre au moins le rez-de-chaussée. C'est pour ça qu'on l'appelle l'escargot, parce que ça a une forme d'escargot. C'est un bâtiment construit dans les années 70, alors qui va être réhabilité, là, rénové bientôt, mais qui est maintenu, qui est dans la liste des bâtiments patrimoniaux. Et donc... typique des années 70, où il y a un système d'agora, en fait, et une desserte des salles tout autour de ce système central, de ce cœur. Il y a un étage où, de la même manière, on va retrouver une distribution de salles avec une grande salle pour faire de la cuisine, une grande salle d'art plastique. Il y a une petite salle de concert qui fait aussi salle de théâtre. Et donc, ce système de distribution-là. Et la ludothèque est installée au milieu. Alors, je souris parce que le ludothécaire... progressivement, d'année en année, voire de mois en mois, empiète et vient prendre de plus en plus d'espace. C'est-à-dire qu'il arrive petit à petit à territorialiser et à s'approprier de plus en plus d'espace. Je pense qu'il faudrait que je colorie pour montrer comment petit à petit, d'année en année, de mois en mois, il vient et sur les côtés et progressivement au milieu. Pour empiéter. Donc, cette ludothèque-là, en fait, c'est une ludothèque d'un centre d'animation. C'est pas uniquement une ludothèque, elle est insérée dans le centre d'animation et du coup, elle est insérée dans le projet du centre d'animation. C'est donc le secteur associatif, en sachant que c'est un secteur associatif un peu particulier parce que c'est celui qui gère les 11 centres d'animation de la ville et trois centres sociaux. Donc c'est quand même une association qui est très implantée, on va dire. Je n'ose pas utiliser la notion de municipalisation de l'association, mais enfin bon, pas loin. Vous l'aurez compris. On est dans un quartier prioritaire politique de la ville, avec une population défavorisée, qui regrette, on va dire, sa population mixte parce qu'il y a eu une époque dorée où les nouveaux bâtiments ont beaucoup attiré les classes moyennes et les classes moyennes supérieures. Et puis progressivement, ces publics-là ont déserté ce territoire-là. Et potentiellement, une population vulnérable et plutôt une population alloctone qui va être présente au centre. Alors du coup... je vous ai mis aussi une photo, voilà, où on voit bien comment il vient empiéter. Là, on voit un peu le comptoir du bar, au fond la ludothèque, et petit à petit il vient au centre de l'agora. Ce dispositif d'enquête, il est constitué, vous le voyez, de plusieurs corpus, de plusieurs techniques, de plusieurs matériaux qui sont mobilisés pour répondre aux différentes questions. Il y a d'une part, on a commencé avec des parcours commentés filmés, donc c'est une technique où on demandait aux trois personnes en charge de la structure ou ludothécaire de nous présenter la ludothèque. Et donc, il nous faisait entrer dans les ludothèques et il racontait les espaces de jeu, le fonctionnement, etc., etc. Donc ça, c'est une technique qui s'appelle les parcours commentés filmés et qui ont permis déjà une première extraction des propos de ces personnes-là, et où on essaie de chapitrer et de voir un petit peu, y compris sur le lien discours et puis image, en tout cas espace, qu'est-ce qui se croise ou pas. Par exemple, sur ces parcours commentés filmés, on travaille notamment à la question des normes, c'est-à-dire comment on renormalise un ensemble de choses via des interdits dans l'espace ludothèque, même quand cet espace-là vient parler de jeu ou de liberté dans le jeu. Il y a tout un tas, il y a toute une codification plus ou moins, non, je vais pas dire coercitive, plus ou moins importante. On a aussi fait des entretiens donc, avec les personnels, soit en direction, soit en animation des ludothèques, et puis un relevé des bâtis qu'un collègue architecte a réalisé. Ensuite, on a un domaine sur la recension des textes, la recension des circulaires, rapports, décrets, etc., etc., qui viennent interroger spécifiquement le jeu et la parentalité, et alors à différents échelons, que ce soit l'échelon national, local, intercommunal, municipal, européen. On regarde un petit peu comment dans ces textes-là, comment les pouvoirs publics, l'action publique vient mobiliser le jeu et la parentalité. En tout cas, comment le jeu est mobilisé. En dehors, on va dire qu'il y a beaucoup de textes qui perçoivent le jeu plus dans ses dimensions risques ou financiers, via les casinos, jeux d'argent, etc., etc. Donc nous, on va regarder la part du jeu comme jeu et parentalité notamment dans ces textes-là qui répertorient dans différents secteurs de l'action publique la notion de jeu. Ça a été accompagné aussi d'entretiens auprès d'acteurs locaux du champ, donc par exemple des acteurs de la CAF, politique de la ville, de fédérations d'éducation populaire, etc., etc. Troisième volet, des observations ethnographiques qui ont démarré en septembre 2017, qui ont été assorties, qui le sont toujours, hein, d'entretiens auprès des familles et d'entretiens auprès des enfants que l'on commence à réaliser. Et ce que l'on commence aussi à réaliser, et j'y suis samedi prochain, ce sont des observations filmées en ludothèque, dans l'idée ensuite de procéder à des observations filmées en famille aussi. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'on est un peu dans une logique, la logique du petit prince, avec le renard, vous savez, où il faut apprivoiser. Donc logique de confiance, de découverte les uns les autres, et avec certains parents qui acceptent d'ouvrir leur domicile. On a commencé un peu à mettre un pied, à réaliser des entretiens, et progressivement, on espère, on essaie de passer à cette phase-là d'entrée. D'entrer chez eux et de venir éventuellement, c'est ce qu'on vise, filmer les temps de jeu. Voilà pour le cadre. Si je reviens plus précisément sur la question ludothèque, vous voyez là, je vous ai noté alors les termes épistémologiques du mot, et puis la définition que donne l'Association des ludothèques françaises. Et en fait, ce que j'ai mis à chaque fois en rouge, c'était pour interroger ce que la définition dit et ce que finalement, à quoi ça correspondrait en termes de peut-être de référentiel métier ou de référentiel formation aussi, quelles sont les espèces de grandes enveloppes qui correspondent en face. Donc on a une enveloppe sur la question de l'aménagement des espaces, de l'aménagement des espaces au regard de l'expertise jeu et jouets, c'est-à-dire comment ensuite on va mettre en avant certaines collections de jeux et de jouets. Comment on va disposer, on va obtenir, en tout cas on va gérer un fonds de jeu, on va avoir une politique d'acquisition de certains jeux et jouets. J'aurais tendance à dire à la manière de bibliothécaire, peut-être que c'est surtout pour vous donner peut-être une idée un peu plus incarnée, si vous ne connaissez pas les ludothèques et les ludothécaires. Mais on a bien ça, c'est-à-dire qu'on a et une politique d'acquisition et une volonté de constituer certaines collections de jeux et de jouets, et en même temps de les aménager et de susciter ou donner à jouer auprès des différents publics. Différents publics, en effet, vous le voyez, publics diversifiés, c'est-à-dire que même si la petite enfance, la prime enfance constitue la majorité du public, des publics des ludothèques, néanmoins, il y a des interventions en extérieur, hors structure, il y a des publics différents qui viennent dans les ludothèques et on va avoir aussi des interventions auprès d'adultes, auprès d'adolescents, auprès de structures particulières, ITEP, hôpital, établissements pénitentiaires, etc., etc., etc. C'est assez vaste. Du coup, avec une réflexion, vous le voyez, sur la posture professionnelle et particulièrement sur la posture relationnelle et sur cette notion-là d'accueil, puisque les ludothécaires vont spécifiquement être attentifs et dans des postures d'observation par rapport au public qui vont venir et qui vont venir jouer sur place ou emprunter des jeux et des jouets. Enfin, le dernier point, vous le voyez, je l'ai mis en lien avec le développement local et social, puisque ça va devenir probablement une des entrées qui semble être de plus en plus présente et dans le métier et dans la manière avec laquelle les ludothèques ne peuvent pas être des structures hors sol, mais elles sont bien dans un maillage territorial. Elles deviennent un acteur local, un acteur éducatif local, concerté et en concertation avec un certain nombre d'autres acteurs. Donc, cette entrée-là du développement local et social et éventuellement du diagnostic de territoire est de plus en plus présent a priori. Je vous ai mis la carte des ludothèques pour vous montrer quand même que ce n'est pas 3,5, quoi. Hein. Ce n'est pas 3 structures et demi. Je pense que rien qu'en Gironde, on doit être à une petite quarantaine maintenant sur le département de la Gironde. Alors, on ne bat pas Toulouse, ville aux 1000 ludothèques, peut-être qu'on dira bientôt. Mais vous voyez qu'il y a quand même une répartition assez importante sur le territoire des ludothèques. Et finalement, on a un équipement qui est à la croisée, à l'intersection de divers secteurs. Alors, vous voyez le secteur éducatif, dont potentiellement le secteur scolaire, hein, qui peut être demandeur, qui peut être parfois même prescripteur ou en tout cas demandeur de prestations, d'interventions, d'accueil, soit dans la ludothèque, soit devenu dans les établissements scolaires. Le secteur culturel, le secteur social, hein, on va avoir peut-être, pour l'instant j'ai l'impression, hein, ces 3 secteurs-là qui sont très présents, mais aussi un secteur sanitaire, de temps en temps, qui n'est pas très très loin, et le secteur du développement social ou local dont on vient de parler. Et donc on va avoir le loisir un peu à cette croisée-là, à cette intersection-là. Alors voilà pour vous présenter donc le cadre. J'en viens maintenant à tenter de vous donner des éléments de réponse sur comment tout ceci s'articule et quelles sont les attentes ou les perspectives des uns et des autres. Alors, du côté des équipements, c'est-à-dire des projets, des équipements et des professionnels, voilà ce qui se dessine. A priori, Alors, ce sont des modélisations, donc ça vaut pour ce que ça vaut, c'est-à-dire que ça aide à un moment donné à catégoriser le matériau qu'on commence à avoir, même si ça a et des avantages et des limites, des avantages parce que ça structure un petit peu, mais en même temps, ça ne donne pas toutes les nuances à l'intérieur d'une catégorie, on est bien d'accord. C'est une étape dans l'analyse. Donc, on a un premier modèle, un premier idéal type peut-être qui est du côté du parent partenaire du ludothécaire pour le jeu libre. Donc, c'est-à-dire qu'on a une place qui est donnée aux parents et qui est plutôt la place d'à côté du ludothécaire pour regarder le jeu de l'enfant et pour regarder le jeu libre de l'enfant. À côté de ceci, on a donc des ludothécaires très présents qui vont soutenir le jeu de l'enfant, qui vont potentiellement réguler les conflits, si des conflits interviennent, et qui vont, quand il y a le parent présent, parce qu'il n'y a pas automatiquement le parent présent dans ces structures-là, ils vont inviter le parent à observer et à observer le jeu de l'enfant. Deuxième possibilité, où c'est l'enfant qui est partenaire du ludothécaire. Il est partenaire du ludothécaire pour faire venir le parent. Donc là, on a plutôt une visée en termes de lien social, et où le ludothécaire, qui va être très présent aussi, qui lui aussi va étayer et réguler les conflits, va inviter les parents à s'engager, mais à s'engager pas automatiquement dans le jeu avec l'enfant, plutôt à s'engager dans la structure, dans d'autres activités, à d'autres... Donc on a là le jeu et la ludothèque quasiment comme un médium, comme on a pu parler précédemment dans la table ronde... où j'étais tout à l'heure. On a là plus un outil par rapport à ce projet de lien social. On a ensuite un autre modèle où le parent est vraiment le partenaire de l'enfant pour le soutien des relations familiales. Donc là, on va avoir quasiment des projets qui sont centrés sur la famille, sur le jeu entre parents et enfants, ou sur le jeu dans la structure familiale. Les ludothécaires, dans ce modèle-là, semble-t-il, sont plutôt en retrait, à dessein, pour donner et laisser les espaces habités et habitables aux parents et aux enfants. Par contre, on va structurer les espaces, c'est-à-dire on va disposer des banquettes, des assises, pour qu'il y ait la présence du parent et donc l'autorisation du parent au jeu de l'enfant, et plutôt le retrait du ludothécaire. Alors que dans les deux premiers modèles, on a des ludothécaires qui sont plutôt beaucoup plus présents, qui sont dans l'observation du jeu pour pouvoir l'étayer et le soutenir. Et le quatrième modèle, c'est l'enfant qui est partenaire du parent pour la culture ludique. Donc là, on a encore... une autre situation où finalement le ludothécaire, il paraît être un médiateur qui favorise, qui promeut la culture ludique. Et pour ce faire, il va mobiliser le jeu parent-enfant ou le jeu enfant-enfant ou le jeu ado-ado. Mais on est vraiment sur une optique là, de promotion de la culture ludique. Alors, ce sont des structures où on va retrouver notamment tout un travail autour des clubs jeux de rôle, des clubs ados, clubs au collège, etc. Donc, où vraiment, on vient promouvoir ces jeux, plus particulièrement les jeux de société, les jeux de règles, enfin, les jeux de société dans les jeux de règles, dans ce modèle-là. Et du coup, on va avoir un aménagement de la structure aussi, et y compris quand la structure se déplace, quand elle se déplace au collège ou ailleurs, aménagement qui va être conçu autour des jeux de règles, dont les jeux de société. Et typiquement, quand on arrive dans la structure, par exemple, dans les structures, on va avoir probablement... très rapidement, ces espaces-là de table avec les jeux de société pas très loin. Ça fait partie des premières choses que l'on va rencontrer dans la structure. Alors, je vous ai mis des extraits d'entretien qui viennent illustrer... le parent partenaire du ludothécaire. où la directrice, vous voyez, Nathalie, 45 ans, qui a un bac option arts plastiques et un DESS en sciences du jeu, en département sciences de l'éducation, qui est en poste depuis 23 ans à la direction de la ludothèque, nous dit « Nous ne sommes pas là pour animer le jeu. Nous ne sommes pas là pour ne mettre qu'en valeur les objets et les espaces. Nous sommes là pour accueillir un public et faire tout un travail autour de l'accueil. Il ne suffit pas de présenter un jouet à l'enfant pour qu'il joue. Il faut le rassurer, le sécuriser, l'autoriser à jouer, lui assurer qu'il pourra jouer comme il veut et aussi lui proposer des objets intéressants pour ça. On ne parle ici que du jeu libre et que de cette manière d'accueillir, permettre principalement aux enfants, même si on le fait des fois dans des structures pour jeunes ou adultes, en tout cas permettre principalement aux enfants d'être autonomes dans leur jeu. Il me semble qu'il ne suffit pas qu'il y ait du jeu, mais il faut du jeu dans un contexte de qualité avec un regard professionnel positif. Cette manière de regarder les enfants, un peu dans ce qu'ils savent faire et dans ce qu'ils sont capables de faire. On l'a expérimenté ici depuis longtemps. Toutes les équipes successives l'ont expérimenté. Quant au point du soir, c'est le moment où ils font, chaque soir, un point d'une demi-heure sur comment s'est déroulée la journée et ce qui s'est passé et ce qui s'est bien passé. Des situations de jeu qui ont été intéressantes, positives, etc. Quant au point du soir, on parle positivement des enfants, les ludothécaires les regardent positivement et comme par hasard, ils font des choses plus intéressantes dans leur jeu et dans leur comportement. Ils sont moins dans la transgression, ils sont moins dans « je teste le cadre en permanence ». Donc c'est ça qui me semblait intéressant, moi, à faire ici et qui ne me semble pas possible avec le jeu dirigé. Un peu plus loin dans l'entretien, elle revient sur la question de la mobilisation du parent. Je dis mobilisation, en tout cas, de la place du parent dans le jeu. Et elle vient dire « Je suis même contre cette injonction dans la société qui est de dire aux parents « vous devez jouer avec l'enfant ». D'abord, parce que dans les observations que j'ai faites, la plupart des fois, que ce soit chez les grands ou les petits d'ailleurs, quand les parents et les enfants jouent ensemble, le parent dirige un peu le jeu. En règle générale, le parent a du mal à laisser l'enfant construire, déconstruire son jeu. Il n'y a pas d'injonction à jouer, on le dit bien aux parents. Par contre, l'enfant reste sous la responsabilité du parent. Et ce que l'on trouve intéressant dans ce quartier, c'est que les parents qui viennent sont en règle générale soit des parents en difficulté avec leurs enfants, soit des parents en recherche de relations avec d'autres parents. En recherche de relations aussi pour leurs enfants avec d'autres enfants parce qu'ils sont préscolarisés. Et donc voilà, on facilite la mise en relation entre parents. On les invite à observer ce que font leurs enfants. Et puis, selon les parents, selon aussi leur envie, on les aide à décrypter ce qui se passe dans le jeu de l'enfant pour qu'ils comprennent que ce n'est pas une activité vide de sens, qu'il se passe des choses, que l'enfant justement met en place des compétences et s'en sert et utilise ses compétences pour faire telle ou telle action dans le jeu et qu'ils peuvent jouer comme ils peuvent et comme ne pas jouer d'ailleurs avec lui. Et d'ailleurs, il y a quelques enfants, en règle générale, les premiers accueils, les enfants sollicitent les parents pour qu'ils puissent un peu jouer avec eux. Et puis très vite, comme il y a les autres enfants, ils jouent entre enfants ou côte à côte, ou parfois même avec d'autres adultes, etc. Et il n'y a pas toujours des jeux d'interaction dans le jeu parent-enfant. Par contre, il y a une vraie présence. On demande une vraie présence des parents dans cet espace-là. Et selon les cas, elle se fait ou elle ne se fait pas, parce qu'il y a des parents en grande difficulté qui mettent plusieurs années à pouvoir être réellement présents. Quoi. Donc là, vous voyez, on est définitivement dans cette situation-là de parent partenaire qui est placé, positionné comme partenaire dans l'observation, le soutien, l'étayage du jeu de l'enfant, aux côtés du ludothécaire qui vient décrypter en fait, ce qui se passe à ce moment-là dans le jeu de l'enfant. Autre modèle, l'enfant partenaire du ludothécaire, hein, pour, par rapport au lien social. Alors, ce que là, c'est Bertrand, qui est directeur adjoint du centre d'animation, 55 ans, quartier politique de la ville, je vous le rappelle, qui a une trajectoire dans l'animation sociale et socioculturelle, qui a passé la première année à l'ouverture de l'option ludothèque, le DUT animation sociale et socioculturelle option ludothèque, et qui est en poste dans l'association depuis longtemps et à la direction adjointe depuis plus de 10 ans. Alors, ce qu'il dit, c'est que ce qu'on a toujours dit, c'est que la ludothèque est au cœur du système du centre d'animation. C'est le lieu d'accueil pour les enfants, les familles, le public. C'est autour de la ludothèque. La ludothèque est un lieu d'accueil du public. Alors, quand les parents, les enfants attendent leur cours de musique, ils sont en ludothèque en bas. Quand les enfants de l'accompagnement à la scolarité finissent les devoirs, ils vont à la ludothèque. Quand les ados sont à la ludothèque, des publics qui arrivent, des nouvelles personnes venant pour se faire inscrire, les enfants vont à la ludothèque et les parents vont avec. Donc vous voyez bien comment ils mobilisent cet espace-là comme un espace de rencontre et qui vient poursuivre cette intention-là de lien social. Donc il ajoute, le jeu est au cœur du projet. Pourquoi ? Parce que pour nous, le jeu est facteur, facilitant pour du vivre ensemble, facilitant pour la citoyenneté, facilitant pour la communication. C'est un éveil permanent. Les enfants vont filer vers le jeu de manière autonome. Au niveau des mamans et des papas, c'est nous qui amenons le jeu. Ils n'y vont pas naturellement. Donc là, on a foncièrement un autre fonctionnement. Du côté du parent partenaire de l'enfant, et je vais vous laisser lire les propos de Chantal, donc ancienne éducatrice jeunes enfants, qui a passé le DUGAL, le diplôme universitaire gestion et animation de ludothèque, et qui a été sollicitée par la commune lorsque, en 2008, la commune a ouvert la ludothèque. Il la connaissait, ça faisait un moment qu'elle travaillait comme éducatrice jeunes enfants. Elle était aussi très investie dans tout le réseau associatif sportif. Et donc, ils sont allés la voir en disant « Chantal, viens porter et tenir le projet ». Et donc, je vous l'ai passé en gras, mais ça va être vraiment le sens là du projet. J'englobais des enfants, évidemment, avec la famille et les parents. Pour moi, ils sont indissociables. Et donc, le projet va ressembler, va être coloré par cette dimension-là. Enfin, du côté de la ludothèque intercommunale, où on est donc plus l'enfant partenaire du parent par rapport à la promotion ludique, ce que nous dit Paul, qui a 40 ans, qui est en poste depuis plus de 10 ans, qui a un bac SES en informatique, qui est rôliste, qui a passé le DUGAL lui aussi. Il nous dit, en fait, on a des familles, je vais dire, qui aiment jouer, en fait. Après, les parents aiment jouer. Sur toutes les familles, là, les parents jouent, en fait. Les parents jouent avec leurs enfants à la ludothèque, ils jouaient chez eux, ils jouaient avec leurs enfants, et du coup, ils jouent avec les plus grands, et forcément, les plus petits ont envie de jouer. Quand j'ai commencé à travailler, j'allais dire qu'on avait surtout des mères qui venaient avec les enfants. Les enfants jouaient entre eux et les parents ne jouaient pas beaucoup avec leurs enfants ou alors avec des petits. Et au fur et à mesure, on avait un peu plus de monde qui venait et qui jouait à la ludothèque. On a un père qui vient souvent avec sa fille. En fait, samedi matin, il passe. Il prend des jeux, il joue avec sa fille qui doit avoir 6 ans. Donc il joue souvent avec sa fille, moins la maman. Mais finalement, ils jouent aussi chez eux, donc à des jeux, ils empruntent des jeux aussi pour adultes. Donc ils jouent quand même. On a plus de papas, peut-être qu'ils viennent jouer plus qu'avant avec leurs enfants. Donc là, on a eu aussi une modification des publics de cette ludothèque-là, avec une masculinisation des publics. Et donc, on va retrouver... vous le voyez, là aussi, dans l'aménagement de la ludothèque, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on voit quand on entre, on voit ça. On voit donc les tables de jeu, les papas, les enfants, hein, qu'on a en interview, et puis on a tout un tas de jeux de société. Du côté des parents, qu'est-ce qu'on peut identifier ? On identifie des omnivores culturels, comme dit Coulangeon, c'est-à-dire des parents qui ont des pratiques éclectiques, des différents loisirs, des pratiques culturelles qui viennent faire des assemblages un peu composites, hétéroclites, et qui viennent et un peu ici, et du côté de la bibliothèque, et qui sont cinéphiles, et du côté de la ludothèque, et qui organise tout ça par rapport à un projet parental qui est assez ferme, qui est assez structuré, parfois aussi avec des justifications éthico-philosophique. Et je vais vous lire au moins un des passages. Voilà, le premier là. On est dans une démarche où le bien matériel a moins d'importance. On parlait de livres tout à l'heure, on a peut-être 3 livres, on n'a plus de DVD. En fait, on essaie de minimiser tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a comme bien. C'est les beaux-parents, quand ils viennent, qui donnent des choses. Il y a des objets, on ne peut pas dire non tout le temps. Enfin, Martin en tout cas. On est dans une démarche où ce n'est pas un objet est à moi et c'est à moi. Le plus important, c'est le partage. Donc on est dans cette démarche avec Martin où on peut facilement échanger les objets. Il sait qu'ils sont là de manière temporaire à la maison. Autre type de posture parentale, c'est une relation privilégiée, duale ou familiale. C'est-à-dire que là, la ludothèque est prise comme un espace-temps hors contrainte temporelle où quand on vient spécifiquement pour être dans la relation avec l'enfant ou dans la relation familiale. On trouve aussi une routinisation des activités familiales, c'est-à-dire que la ludo, c'est devenu le deuxième salon. Hein, donc ça entre dans l'emploi du temps. Si on regarde, si on est sur une logique de sociologie des loisirs par l'organisation de l'emploi du temps, eh bien le samedi matin, il y a le rituel de la ludothèque, c'est-à-dire qu'on pose le grand au basket et hop, avec le petit, on vient attendre à la ludothèque et jouer à la ludothèque le temps que la séance se déroule et ensuite, hop, on repart. Donc on a une ritualisation, une routinisation de l'activité ludique, avec potentiellement des justifications sociopédagogiques sur l'épanouissement de l'enfant, sur le choix de l'enfant, sur l'enfant libre acteur qui se promène dans l'espace de la ludothèque, et de potentiellement aussi avec, on dirait, une réappropriation de modèles de pédagogie nouvelle. Montessori, etc. Bon, ce type de diffusion-là, qui ces dernières années a largement été diffusé et qui peuvent être réappropriés et venir dans les justifications. Et enfin, un modèle aussi de délégation confiante, où la ludothèque devient un espace privilégié de garde, mais il ne faut pas prendre le terme de garde automatiquement dans un mauvais sens. Hein. Il y a une confiance éclairée, une conscience de la bienveillance et de la compétence des professionnels, et donc on sait que l'enfant, les enfants sont bien en étant à la ludothèque et que les ludothécaires vont bien s'occuper des enfants. Alors là, on est toujours sur les omnivores culturels, mais je vous l'ai dit peut-être là, sur la routinisation, la ritualisation, où Marion, qui a 28 ans, animatrice socioculturelle en périscolaire, qui est sur un contrat précaire, 20 heures, 25 heures semaine, et qui est mère de 2 enfants et néopropriétaire, vous voyez, c'est vraiment tout récent, et qui dit... Pas du tout, pas du tout. Quand je lui demande comment ça se passe, le jeu en ludothèque par rapport au jeu à la maison. Est-ce qu'il y a des similarités ou non ? Ça n'a rien à voir. Ils se lâchent plus, ils se libèrent plus. Ils font comme les autres. Alors par contre, ils jouent beaucoup avec d'autres enfants naturellement, sans se demander comment ça fait. Il n'y a pas de limite. Ils ne jouent pas pareil. À la ludothèque, comme il y a plein de jeux d'imitation, ils jouent beaucoup, beaucoup avec ça. Alors qu'ici, pas tant que ça. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais l'espace, ce n'est pas pareil, quoi. L'espace fait rêver là-bas. La taille, le volume, la quantité, c'est fait pour que ça donne envie de jouer. Je n'ai pas la chance de pouvoir. Si j'avais la chance d'avoir une plus grande maison, je leur ferais une ludothèque. Je créerais aussi cet espace de jeu grand de motricité. Ce n'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais ce n'est pas dans le budget puisque ce n'est pas notre objectif de vie. Mais ça serait bien. Ça serait bien de pouvoir le faire. Alors, je n'ai pas résisté au fait de vous mettre sur la relation privilégiée et duale, ce papa-là avec ses 2 enfants dans l'attente de l'escape game de la fête du jeu de janvier 2018 de la commune de la ludothèque municipale, qui vient voilà, illustrer un peu cette relation privilégiée qui va être entretenue entre parents et enfants. Du côté des fratries, donc là, pareil, ce qui ressort, c'est... potentiellement un premier profil, idéal type, avec des jeux et des manières de jouer qui vont être propres aux équipements. C'est-à-dire que l'offre ludique, comme ce que vient de dire Marion, l'offre ludique, sa mise en scène, ses aménagements vont générer des jeux particuliers. Par exemple... Voilà, c'est cet extrait-là du journal de bord du 17 novembre où une maman enceinte est assise dans l'un des fauteuils. Ses deux enfants, Augustin, 7 ans, et Céleste, 4 ans et demi, sont à l'étal de l'épicerie située derrière la banquette. Ils jouent au papa et à la maman en train de faire les courses. Elle l'appelle. « Chérie, on va prendre du chocolat ?»« D'accord, chérie, on prend aussi du pain. » Il reste un moment à jouer au papa et à la maman et découvre les déguisements dans l'un des coffres non loin de l'étal. Il se déguise. Lui en chevalier, elle en princesse. Je vous ai dit, on travaille aussi sur la socialisation sexuée. Il ne gardera pas très longtemps son costume, tandis qu'elle le conserve, alors même qu'elle a changé de jeu et qu'elle est affairée avec lui aux figurines. Elle finira par l'ôter en décrétant « Oh, il ne va pas du tout ce déguisement !» alors qu'elle l'a conservé près de 40 minutes. Discutant avec la maman du jeu des enfants, elle me dit « Je vous assure qu'à la maison, il ne s'appelle pas chérie. Il ne se dispute pas ici. » D'ailleurs, on l'entend, il n'y a pas de cri. C'est aussi le fait qu'il y a beaucoup de jeux, qu'ils sont neufs. Autre possibilité, ce sont des fratries qui sont habituées à la structure, à la ludothèque et qui viennent recomposer les partenaires de jeu ou qui jouent ensemble. C'est-à-dire on a par exemple des grands qui doivent garder les plus petits et ces aînés, quand ils viennent à la ludothèque, hop, les aînés se retrouvent ensemble et les cadets se retrouvent ensemble. Et donc on recompose. Et pour le besoin du jeu, on peut se réunir entre germains, entre cadets et aînés. Donc on a des agrégats qui sont un peu différenciés, mais souvent on a des habitudes de jeu où on va reprendre parfois des jeux. On a installé un jeu, on a installé un aménagement, et quand on revient le lendemain ou la semaine suivante, on va reprendre ce scénario de jeu. Enfin, on a aussi des fratries qui se séparent, voire s'évitent scrupuleusement, avec l'opportunité de trouver dans la ludothèque des espaces, des objets, des partenaires pluriels, multiples, du coup, qui permettent aussi ces extractions ou ces évictions. Et enfin, des situations de jeu qui sont toujours un peu incertaines et fragiles, parce que les rapports de force entre aînés et cadets ne sont pas invisibilisé par la structure et par l'équipement, ou même parfois par la situation de jeu. Et là, par exemple, ce sont Margot et Lilou qui jouent ensemble, toutes deux sœurs, 6 ans et 7 ans et demi, et elles jouent au roi et à la reine. Et elles élaborent conjointement le scénario. À leur arrivée, elles se sont précipitées sur cet espace où sont mis en scène des figurines, des châteaux et des maisons de bois. Elles semblent reprendre un scénario de jeu initié précédemment. Une dizaine de minutes plus tard, l'aîné subitement quitte le jeu, refuse de ranger les figurines, fait la sourde oreille, tourne le dos à sa sœur, montre ostensiblement des signes d'ennui ou de désintérêt à l'égard des sollicitations de Margot qui, mécontente, finit par ranger toute seule. Et elle lui dit « Moi, je joue plus. Je joue ici, maintenant, » dit Lilou. Mais quelques instants plus tard, l'aîné sollicite sa sœur. « Margot, tu joues avec moi ?» Pas de réponse. « Allez, tu joues avec moi ?» Non. Quelques secondes passent. Tu pourras choisir tes personnages. Bon, ok. Margot, pour autant, ne bouge pas. Tu viens ? Margot ne bouge pas plus. Finalement, leur maman entre, s'approche de l'espace, les appelle pour le goûter. Donc, elle s'extrait de l'espace ludothèque pour aller goûter à l'entrée de la ludothèque. Et à leur retour, elles descendent la maison de poupées qui est positionnée en hauteur. Elles jouent alors de nouveau ensemble aux parents, mais aussi aux enfants. Et elles vont alterner les rôles et les répliques des personnages. Mais avec cette tension-là, vous voyez qu'il y a fragilisé la situation de jeu et des formes d'ascendant ou d'emprise des aînés qui ne sont pas rendues caduques par les situations de jeu et des résistances parfois des plus jeunes. Pour conclure, trois éléments de conclusion. D'une part, dans la fratrie ou dans la relation avec le parent, a priori, on assiste à des relations sociales et statutaires qui peuvent être modifiées. Il semblerait que dans les fratries, la ludothèque offre un espace où on peut jouer différemment, où il peut y avoir des formes de pacification dans le jeu. On insiste aussi à des situations parfois de renversement, c'est-à-dire que ce sont les enfants qui sont les instigateurs ou les instigatrices du jeu avec le parent. Ce sont les enfants qui prennent la main du parent et qui disent « on va dans ce coin-là ou dans celui-là. Donc, il y a des formes de reprise en main, de prescription, en tout cas, qui sont modifiées. Et l'espace aussi offre des facilités d'extraction ou de diversion possible si on est aîné ou si on est cadet et que l'on veut s'extraire de l'insistance du plus grand ou de l'ascendant du plus grand ou de l'insistance du plus jeune à vouloir jouer avec soi. Deuxième élément, des variations dans les postures parentales, dans les projets qui sont verbalisés, qui sont communiqués par les parents quant au projet parental ou éducatif et qui visiblement varient selon des dispositions culturelles et socio-économiques, dans l'appropriation qui peut aller jusqu'à de la mobilisation, voire de la rentabilisation de l'équipement par rapport à un projet éducatif, voire par rapport à un projet scolaire, avec des formes de scolarisation ou de didactisation du jeu et des situations de jeu, où on va demander à emprunter un jeu pour apprendre l'orthographe, hein, par exemple. Ça, j'y ai assisté, je pense que les ludothécaires peuvent largement en témoigner. Et enfin, un équipement qui est de plus en plus identifié par l'action publique, comme un instrument, comme un outil propice à rendre visibles des actions intersectorielles qui sont destinées aux parents, qui sont destinées aux familles et qui ressortent au loisir, à l'éducatif, au culturel ou au social, la ludothèque devenant un outil commun pour reprendre les propos d'une des personnes de la table ronde précédemment. Je vous remercie de votre attention.